Eh bien, bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus et que le Seigneur puisse encore nous conduire, nous enseigner, nous montrer toute sa richesse dans sa parole cet après-midi encore. Le thème de notre réflexion de cet après-midi, c'est savoir compter sur Dieu. Donc là, dans les versets que nous venons de lire, hein, il y a une scène un peu autour d'une piscine et donc autour de cette piscine, ce sont des gens un peu particuliers parce qu'ils sont tous malades. Ils ont tous quelque chose. Et de temps en temps, un ange vient toucher l'eau, il la fait frémir et ben, le premier qui se plonge dans l'eau est guéri, quelle que soit sa maladie. Alors Jésus arrive, se promène et voit un homme. Et chose surprenante, la première chose qu'il lui dit, c'est « Mais est-ce que tu veux être guéri ?» Donc si tu peux passer. Voilà. Il était là, il est malade depuis 38 ans. Bon, on ne sait pas depuis combien de temps il était au bord de la piscine, mais en tout cas depuis, je pense, un certain temps. Et Jésus lui dit, mais veux-tu être guéri? Ça paraît surprenante cette question. Je pense que oui, Seigneur, bien sûr, je veux être guéri. Mais son handicap l'empêche d'être rapide. Son handicap l'empêche d'aller toucher l'eau le premier et de bénéficier de cette guérison miraculeuse. Et on voit aussi que cet homme ne peut compter que sur lui-même. Personne ne semble vouloir... Ben, si quelqu'un l'aide, ça veut dire qu'il lui cède sa place. Jésus aurait pu l'aider à descendre dans la piscine et à faire bouger la piscine lui-même. Mais là, elle lui dit, non, prends ton brancard, prends ton lit et va-t'en. Ce qui est marquant quand même, on le répète, c'est que là, dans ce verset, le paralytique, il pouvait compter que sur lui-même. Apparemment, personne pour l'aider, pas de famille, rien, et ben, il aurait pu encore rester là jusqu'à ce que mort s'en suive, sans jamais pouvoir être guéri. Et là aussi, Jésus nous montre sa supériorité, sa force, sa capacité à guérir de manière miraculeuse. Il ne l'a même pas touché. Il lui a dit, prends, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Et là, le paralytique aurait pu lui dire, bah, je ne peux pas, je suis paralysé. Non, il a fait un acte de foi. Il a compté sur Dieu. Puis regardons dans un autre récit, dans 1 Samuel, c'est l'histoire de David contre Goliath. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, hein, l'apparence de Goliath, et la hauteur de sa taille, plus de 2 mètres, car je l'ai rejeté. Voilà, le sort en est jeté. Ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme et son apparence. L'enveloppe que l'on montre aux autres en cachant l'envers du décor. Et puis on voit que le Philistin, il dit, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Il était là devant l'armée, avec sa stature imposante, sa force colossale, son équipement redoutable. Prêt à défier une armée entière. Et là, quand il s'adresse au peuple d'Israël, ce Philistin, tout le monde tremble, tout le monde en a peur. Et là, on voit apparaître David. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien et partit, comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Mais à chaque fois que le Philistin avançait, eux, ils reculaient. Donc David se promène dans les rangs et il entend les discours et puis il voit cet homme imposant qui nargue le peuple. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Et assurément, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Oui, mais... Encore faut-il que quelqu'un s'avance. C'est bien beau de dire, ah, mais alors celui qui réussira, alors il sera, mais le numéro 2 du royaume. Sauf que tout le monde reste au même rang. Éliab, le frère aîné de David, qui avait entendu parler à ses hommes, il fut enflammé de colère contre David et lui dit « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé tes brebis dans le désert ?» On voit qu'il a laissé à des gardiens, il n'a pas abandonné son troupeau. « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, » dit son frère. « C'est pour la bataille que tu es descendu, c'est pour le spectacle. » David lui répondit « Mais qu'ai-je fait ?» David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. J'imagine que le roi voyant arriver un enfant, parce qu'il faut quand même se rappeler que David est quand même encore un enfant, avec cette assurance, David lui dit « Non, ne t'inquiète pas, moi je vais m'en occuper. » Alors qu'il y a l'armée entière devant Goliath. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, tu es un enfant. Alors lui, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse qui a dû s'entraîner pendant des jours, des mois, des années. Et je pense qu'il connaissait l'art de la guerre. Le serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis. Il démontre quand même une certaine bravoure. Il est vaillant, il n'a pas peur. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main du Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Je sais pas, pour un roi, il a pu dire, mais... « Emmène-nous à la bataille !» Non, le roi lui dit, « Vas-y, montre, et puis on verra bien ce qui se passe. Après tout, il n'y a que toi qui prendras le risque de te faire tuer. Nous, ce qui peut nous arriver, c'est qu'on soit délivré de ce Philistin. » Étonnant quand même, les chefs des fois. Allez-y, on verra après. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Alors j'ose imaginer, si les enfants étaient encore avec nous, on en prend d'une 10-12 ans et puis on commence à lui mettre un gros casque sur la tête, une grosse armure et puis des grosses bottes et puis une grosse épée, je pense qu'il tomberait par terre tout de suite. Donc David saignit l'épée, il essaye quand même, mais il n'arrive pas à marcher. Il lui dit, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il remit ses sandales, sa tunique, son bâton de berger. Il choisit dans le torrent 5 pierres polies. Il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Mais franchement, imaginez la scène. Tout les oppose. Tous les opposent. Vous imaginez, David, il arrive avec sa petite tenue, voilà, ses petites sandalettes, sa petite fronde, et un petit sac où il a mis quelques cailloux dedans. Et en face de lui, à l'opposé, diamétralement opposé, la force et l'arrogance de ce Philistin. Cette arme de guerre. Donc le Philistin le regarda, et lorsqu'il aperçut David, le méprisa. Ah oui, ne voyant qu'un enfant blond et d'une belle figure. Ah, bon, quand même. Voilà. Peut-être quand même qu'il se dit, oh, pauvre petit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu es tellement insignifiant. Qu'est-ce que tu viens faire? On n'est pas là pour jouer. Et le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai à manger aux oiseaux et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » En face de l'équipement de guerre du Philistin, David prononce le nom de Dieu. Voilà son arme de guerre fatale. Imagine que le Philistin l'a déterminé, mais il est complètement fou le garçon. Mais complètement. Et à juste titre, je pense qu'à sa place, donc ben après tout, le Philistin était venu pour faire quelque chose, donc il se dirige vers David, et David fait la même chose. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde, et il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Il l'a même pas touché. Il l'a tué à distance. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, et il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Décidément, des deux côtés, c'est une armée de lâches. Que ce soit l'armée des Philistins, que l'armée d'Israël. Qu'est-ce qui empêchait les Philistins d'attaquer ? Pourquoi leur force ne résidait que sur la tête d'un seul homme ? Et l'armée d'Israël n'assemble-t-il même pas accompagner David dans sa démarche ? David ne s'est pas présenté devant Goliath en disant « C'est avec ma fronde que je vais t'avoir ». Il a dit « Non, moi je viens te combattre au nom de l'Éternel, le Dieu des armées ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou tenu en main une fronde, hein, cette espèce de lanière avec un petit sac au bout, on mettait une pierre à l'intérieur, on faisait tourner, on lâchait une des lanières et l'objet que l'on mettait dedans était propulsé. Hein, ça donnait de la vitesse et la force à l'objet. Par contre, il fallait quand même être assez habile pour toucher ce que l'on voulait toucher. Et là, il n'y a pas photo, c'est en plein front qu'il a pris. Et puis une autre histoire, encore, que l'on trouve dans Luc. Jésus est dans la foule, il est pressé de tous les côtés. Et dans cette foule, il y a une personne, une dame, une femme. Une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui a dépensé tout son argent auprès des médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière Jésus et toucha le bord de son vêtement. Pas Jésus, hein, le bord de son vêtement. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, encore une fois, imaginez la foule, hein, si vous avez déjà été dans des rassemblements, peut-être en concert ou en manifestation, ou dans un local où il y a beaucoup de monde, ou à l'entrée ou à la sortie d'un cinéma, ou d'une salle de spectacle, hein, quand tout le monde est tassé là. Mais n'importe qui peut vous toucher, vous ne sentez rien du tout. Et là, imaginez quelqu'un vous touche le bord de votre vêtement. Ben, je pense que je vous défie de savoir qui vous a touché. Et là, cette femme est guérie. Et Jésus dit, qui m'a touché ? Alors, pour tous ceux qui étaient autour de nous, ben non, Seigneur, nous... On t'a pas spécialement touché, quoi, mais tu vois toute la foule qui veut te voir, t'entendre. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Elle est allée pour toucher le vêtement de Jésus, mais pas juste pour toucher le bout d'un vêtement d'un prophète. Elle y est allée, pour elle, c'était un acte de foi. Comme dans notre texte, ceux qui étaient malades, l'acte de foi était d'aller se jeter dans l'eau. Ce n'était que de l'eau, hein. Et là, Jésus sait très bien ce qui s'est passé. Quelqu'un est venu avec un acte de foi en se disant si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et c'est ce qui est arrivé. Compter sur Dieu. Savoir compter sur Dieu. Cette femme était désespérée. Elle en a vu des spécialistes. Elle en a dépensé de l'argent. Mais ça ne l'a pas empêchée. Elle n'a pas renoncé. Parfois, on pourrait être tenté de renoncer. C'est trop dur. Ce que je vis, ce que je traverse, c'est trop dur. Même Dieu, il ne sait pas ce que je traverse. Tellement c'est dur. Est-ce que tu penses que Dieu ne sait pas ce que tu traverses? Est-ce que c'est uniquement rabaisser Dieu à... Ben, je ne sais pas, en fait. Est-ce que d'abord, on va mettre toute la panoplie de « je vais déjà m'en sortir par moi-même » Parce que forcément, Dieu va intervenir dans ce que je fais. Et puis, à un moment donné, quand je m'aperçois que, en fait, au lieu de m'en sortir, je fais que m'enliser, que d'aller de problème en problème, plutôt que de dire à Dieu, je viens devant ce problème au nom du Dieu des armées. Seul Jésus avait le pouvoir de guérir cette femme. Merveilleux Seigneur. Jésus se laisse approcher par tous ceux qui veulent le rencontrer. Pas seulement de face ou de côté, mais aussi venir par derrière, peut-être avec honte. Seigneur, j'ai tellement honte de ce qui se passe que je n'ose pas te regarder en face, ni te regarder sur le côté. Et le Seigneur se dit, approche-toi de moi par derrière, mais je serai là aussi. Donc pour le paralytique, nous venons d'avoir trois exemples, sur qui cet homme pouvait-il compter? Sur lui, il ne pouvait pas. Sur ceux qui l'entouraient, il ne pouvait pas. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un devait laisser sa place. Et après, sans savoir combien de temps après, il pouvait à nouveau bénéficier de ce miracle. Et puis, il ne semblait pas avoir de famille, sinon quelqu'un l'aurait aidé. Il ne pouvait compter que sur l'intervention de Jésus. Pour l'histoire de David, quelle différence, hein, en disant, oui, moi j'ai des armes pour combattre. Et se dire, mais c'est au nom de Jésus que je vais combattre. C'est toute la différence. Puis remarquez bien quand même, dans cette histoire de David, c'est pas un vaillant soldat qui aurait été reconnu le plus apte et encouragé par les autres à aller affronter Goliath. Non, c'est le berger qui a entendu dire qu'il y avait un problème dans la vallée, que les deux armées étaient en face, et qu'il y a un Philistin, un seul soldat, une terreur qui venait, qui insultait le peuple, qui insultait le nom de l'Éternel. Et David vient, petit David, et dit, vous inquiétez pas, moi je vais m'en occuper. Il n'était pas crédible. Il n'était pas crédible du tout. Il n'était pas crédible, il n'était pas équipé. Quand le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, il ne faut pas s'attendre à se regarder soi-même et se dire, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis équipé? Ce n'est pas notre problème, c'est le problème du Seigneur. Parfois, quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, « Ah ben non, pas moi, il faut que tu envoies un soldat. Il faut que tu envoies quelqu'un qui est capable, qui est apte. » Et le Seigneur te dit, « Mais moi, je ne suis pas capable pour toi. » Et puis enfin, pour cette femme, ben elle non plus, elle ne savait plus sur qui compter. Elle ne pouvait pas compter sur elle-même, qu'elle ne pouvait rien faire. C'est pas comme si elle avait une plaie et elle pouvait se mettre un pansement. Et elle ne pouvait pas compter sur les médecins. Elle ne pouvait compter que sur une guérison miraculeuse. Il fallait qu'elle fasse un acte de foi. En se disant, peut-être, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Ça me fait penser à cette parole de Jésus qui dit, mais vous savez, moi je suis... Ceux qui sont bien pourtant n'ont pas besoin de moi. Ils ne veulent pas de moi. Mais je suis venu pour guérir les malades, pour délivrer les opprimés. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, quand, entre guillemets, quand tout va bien, hein, ça roule, comme on dit. La vie, bien. Je suis bien, je travaille, j'ai du travail, voilà, j'ai de quoi me nourrir, me loger, me vêtir, mes plaisirs. Donc, notre Dieu, il a sa petite place dans notre grande vie. On oublie de lui donner la grande place dans notre petite vie. Parce que tout ce que l'on a, c'est Dieu qui nous permet de l'avoir. Et souvent, on l'oublie, on fait le contraire. On a une attitude qui est différente. Cette semaine encore, j'étais touché par cette... dans la lecture de la Bible, donnez et vous recevrez. Donnez et vous recevrez. Il n'est pas dit, vous allez d'abord recevoir et après vous donnerez. Donnez et vous recevrez. Je vous laisse méditer cette petite parole. Puis-je compter et m'appuyer sur mes propres forces ? Ou sur mon intelligence. Parce que parfois je peux me croire ou me dire, mais je sais comment il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire. Mais quelle déception aussi parfois de vouloir faire tout seul. Puis peut-être aussi combien de temps perdu. Dans Psaume chapitre 112, verset 7, le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. J'ai un Goliath en face de moi, je ne crains pas. Je ne crains pas parce que c'est l'Éternel qui va conduire mes pas. C'est lui qui va me donner la force et l'assurance. Aujourd'hui, pouvons-nous seulement compter sur tout l'arsenal médical, l'informatique, et j'en passe. Parce que nul n'est à l'abri d'une mauvaise nouvelle, qu'elle provienne d'un médecin, d'un patron, d'une personne qui nous est chère, qu'une mauvaise nouvelle peut être plus transperçante qu'une flèche, nous atteindre au plus profond de nous-mêmes. La simplicité de vivre une situation incontrôlable peut générer en nous une multitude de défaillances, de raisonnements. Pourquoi je vis cela? Est-ce que je vais mourir? Comment je vais m'en sortir? Voilà, je commence à me perdre dans mes idées, dans mes pensées, au lieu de revenir en disant, Seigneur, tiens, toi tu connais toutes choses, c'est toi qui vas agir. Guide-moi, montre-moi. Je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe chapitre 41 verset 13. À tout moment et en n'importe quel moment, nous pouvons compter sur Dieu. Notre société tend à nous démontrer que, en créant des lois, des protocoles, on peut se sentir plus libre, plus fort, plus puissant, plus riche. Tout ça pour nous éloigner de Dieu, en fait. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et puis cette parole, pour terminer, cette parole de Paul aux Romains, chapitre 7. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Voilà, Paul, quand il a écrit ça, il devait avoir le cerveau, mais complètement à l'envers. Vous imaginez un peu, je fais ce que je ne veux pas, je ne fais pas ce que je dois faire. Ça a dû être un moment très perturbant dans sa vie. On se dit, mais tout le monde me considère comme un apôtre, mais là je suis paumé, là. Mais là, il parle de sa volonté. Je vais vous laisser ce verset. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, verset 12. Notre Dieu veut que nous sachions que sa puissance fait changer les vies, fait trembler la terre, change les cieux. C'est la puissance, c'est sa puissance qui peut transformer nos vies, transformer les situations. Nous, je vous invite, et je nous invite, hein, à ne pas limiter l'action de Dieu dans nos vies. Savoir compter sur lui, c'est savoir compter sur lui, mais à 100%. Pas juste pour finir le bord de ma feuille, parce que moi j'ai géré le reste. Ou mettre le timbre sur l'enveloppe, en disant, tiens Seigneur, ça t'appartient. Ben non, ça lui appartient pas. Tu lui demandes juste de mettre le timbre. Non, remplis la lettre avec lui. Vous voyez la différence? C'est une énorme différence. Alors que vraiment le Seigneur déjà bénisse sa parole, qu'il nous permette vraiment de nous en approcher, de comprendre que nous avons tout pleinement en lui. Amen.